إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Nous allons inchallah parler aujourd'hui des enseignements et des leçons à tirer de la bataille de Uhud, ce qui viendra clôturer inchallah ce grand épisode de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi un grand épisode de la vie des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il est important de tirer des leçons, des enseignements, et aussi de voir quelles étaient les sagesses divines derrière cet événement. Pour cela, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala s'est étalé sur le sujet et a compilé toute une série d'enseignements, de leçons, de sagesse et aussi de règles juridiques qui sont liées à cette bataille dans son livre Zadul Ma'ad fi Hadi Khayri al-Ibad. Zadul Ma'ad fi Hadi Khayri al-Ibad. Donc c'est un livre qui reprend la sira du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tout en spécifiant les différentes sagesses et les différentes leçons à tirer de tel et tel événement. Nous allons commencer par les règles juridiques qui sont liées directement à cette bataille. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala nous dit, premièrement, le djihad devient obligatoire dès qu'on s'y engage, même si on l'y est seulement préparé et qu'on s'y est mis en route. Il n'est alors plus permis de revenir en arrière jusqu'à combattre l'ennemi. Ce fut le cas pour la bataille de Badr, mais c'est aussi vrai pour la bataille de Uhud. Dès lors que les musulmans apprirent la venue de Quraysh pour assiéger Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enfila son armure de guerre et proclama le djihad. Il n'était plus permis alors à personne qui avait la capacité de combattre de revenir en arrière sous prétexte qu'il n'était pas encore préparé ou qu'il n'était pas encore sorti de la ville. Donc c'est la première grande leçon que l'on tire de cet événement. Deuxièmement, il n'est pas obligatoire pour les musulmans de sortir combattre si leur ennemi pénètre dans leur territoire. Il leur est permis de rester dans leurs habitations et de combattre depuis celles-ci, si cela est plus nuisible à l'ennemi, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a indiqué le jour de Uhud. Le prophète a donné le choix aux musulmans, il les a concertés à ce sujet. Allons-nous combattre les Quraïchites depuis Médine, depuis les habitations de Médine, ou bien allons-nous sortir à la rencontre de l'ennemi ? Donc le choix fut donné aux compagnons, ce qui prouve la légitimité de choisir l'une des deux options. Troisièmement, il est permis à l'imam, avec son armée, de fouler la propriété de personnes si ces propriétés sont sur le chemin menant au champ de combat, même si cela ne plaît pas aux propriétaires de ces terrains. Comme cela arriva avec le terrain de Marbar ibn Qaydi, le Munafiq, qui s'est vu fouler ces terrains par l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque ces derniers s'acheminèrent vers Uhud. Et donc si ces terrains se trouvent dans le chemin qui mène vers les champs de combat, il est permis à l'imam, au chef des musulmans, de fouler ces terres sans demander la permission, voire même si cela occasionne un désagrément de la part de ses propriétaires. Quatrièmement, il n'est pas permis d'autoriser ceux qui ne sont pas en âge de combattre parmi les jeunes garçons. Ils doivent être renvoyés, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a renvoyé bon nombre de jeunes compagnons, entre autres Abdullah ibn Omar, à cause de son jeune âge. Et donc, il n'est pas permis de les inciter ou de les faire participer au combat au regard de cela, au regard de leur âge assez jeune. Cinquièmement, il est permis aux femmes d'accompagner l'armée pour des tâches autres que le combat, comme soigner, donner à boire, assister les malades, etc. Cela, bien sûr, si la tentation est écartée. C'est pour ça que certains savants conditionnent pour celles qui veulent participer au djihad par les soins, par le fait d'abreuver les combattants, etc., qu'elles ne doivent pas être une source de tentation. Et donc, ils conditionnent qu'elles soient plus ou moins très avancées en âge ou avancées en âge. Autre chose aussi très importante à ce sujet, elles ne doivent pas participer au combat à proprement parler, en prenant les armes. Sauf si elles sont attaquées elles-mêmes. Dans ce cas-là, elles doivent se défendre. Ibn Abi Shayba rapporte par une chaîne de transmission qui remonte à Saïd ibn Amr al-Qurashi, selon lequel Ummu Kabsha, entre parenthèses ici, Saïd ibn Amr al-Qurashi, qui est un tabi'i, n'a pas rencontré Ummu Kabsha. Donc il y a une interruption sur la chaîne de transmission. Donc cette narration doit être prise au conditionnel. Quoi qu'il en soit, il dit, selon Ummu Kabsha, une femme des Banu Udhra, Udhra Qudaa, a dit: Ô messager d'Allah, je ne veux pas combattre, je veux seulement soigner les blessés et abreuver les malades. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait dit de rester chez elle, de rester chez elle. Quoi qu'il en soit, il est éprouvé que durant la bataille de Hunayn, qui est une des dernières batailles entamées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que certaines femmes ont participé à cette bataille dans ces tâches bien précises. Le fait de soigner les malades, de les assister, de les abreuver, de les soigner, etc. Sixièmement, il est permis de se jeter au cœur de l'ennemi, comme le fit Anas ibn Nadr et d'autres compagnons. On verra aussi une narration de Ali ibn Abi Talib qui va dans ce sens. Septièmement, il est permis de demander à Allah d'être tué dans son sentier. Et cela ne contredit pas l'interdiction de souhaiter la mort. Comme le fit Abdullah ibn Jahsh, lorsqu'il dit: Ô Allah, fais-moi rencontrer un homme puissant parmi les associâtres, très en colère, afin que je le combatte. Qu'il me tue alors que je suis sur ton sentier et qu'il s'empare de ma dépouille, qu'il me coupe mon nez et mes oreilles. Et lorsque je te rencontrerai, tu me demanderas: Ô Abdullah ibn Jahsh, pour quelle cause as-tu été mutilé? Et je répondrai: Pour ta cause, ô Seigneur. Donc il est permis de demander le martyr. Souhaiter la mort autre que le martyr, cela n'est pas légiféré. Mais la personne doit patienter, notamment dans les épreuves. Huitièmement, le musulman qui se suicide fait partie des gens du feu, comme dans l'histoire de Kuzman, que nous avions vu dans un cours précédent. L'imam al-Bukhari rapporte aussi cette narration sous le numéro 2898, sans citer le nom de cet hypocrite Kuzman. Comme le dit Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi, qui rapporte cette narration, il dit: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informa que cet homme-là, Kuzman, fait partie des gens du feu. Alors que les compagnons l'avaient vu faire dans la bataille telle et telle chose qui forçait leur admiration. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Cette personne-là fait partie des gens du feu. Les compagnons s'étonnèrent de cette parole. Hatham ibn Abi al-Jawn, radiallahu anhu, décida de suivre cette personne, Qusman, jusqu'à ce qu'il l'ait vu se suicider. Il retourna alors vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dit: Je déclare que tu es l'envoyé d'Allah. J'ai vu un tel se suicider et planter son épée dans son ventre. Neuvième enseignement, ou neuvième règle juridique que l'on tire de cette bataille, la tradition concernant le martyr. Il n'est pas lavé ni enveloppé autrement que dans ses vêtements dans lesquels il a combattu. Il est enterré dans ses habits, sauf si l'ennemi les lui a retirés, dans ce cas on l'enveloppera dans un linceul. La sagesse dans le fait de ne pas les laver réside dans la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait dit: Je témoigne en faveur de cela, c'est-à-dire en faveur de ces martyrs. Nul n'est blessé dans le sentier d'Allah, sans qu'Allah ne le ressuscite au jour de la résurrection. Sa blessure saigne encore, sa couleur sera celle du sang, mais son odeur sera celle du musc. Dixième leçon. La prière sur le martyr est sujet à divergence chez les savants et nous avions déjà évoqué en partie la divergence des savants à ce sujet. Ibn al-Qayyim estime que l'imam a le choix. L'imam, c'est-à-dire le chef des musulmans ou celui qui dirige cette armée. Il a le choix de prier sur les martyrs comme il a le choix de ne pas prier sur eux car des récits existent dans les deux sens. Onzièmement, la tradition veut que les martyrs soient enterrés à l'endroit même où ils sont tombés. C'est pour cela que nous trouvons les tombes de Mus'ab ibn Umair, Hamza ibn Abdul Muttalib, Abdullah ibn Jahsh sur le champ de bataille de Uhud et ils n'ont pas été rapatriés au cimetière d'El-Baqir à Médine. Douzièmement, celui qui est excusé par la maladie, par une blessure, par une grande vieillesse, une incapacité à combattre, n'a pas l'obligation de sortir pour le djihad. Il lui est toutefois permis de sortir, même si ce n'est pas obligatoire pour lui, comme ce fut le cas de Amr ibn al-Jamouh, qui était boiteux, ou alors le cas d'Al-Yaman, le père de Hudhayfa, et de Thabit ibn Waqsh, qui étaient tous deux âgés. Ils sortirent au combat et furent tués durant cette bataille, radiallahu anhu. Treizièmement, si les musulmans tuent par erreur un des leurs en pensant qu'il s'agit d'un mécréant, l'imam doit payer sa compensation, ad-diya, et cela à partir du trésor public ou à partir de la caisse commune des musulmans. Comme ce fut le cas lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam proposa de payer cette compensation pour Al-Yémen, qui avait été tué par erreur par les musulmans, à son fils Hudhayfa. Nous avions déjà expliqué cela dans un cours précédent. Voilà en résumé ce qu'a cité Ibn al-Qayyim rahimahullah tabaraka wa ta'ala concernant les règles juridiques à proprement parler, ahkam al-fiqhiyya, de cette bataille. Puis il aborde un autre sujet concernant maintenant les sagesses et les finalités louables de la bataille de Uhud. Il dit, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a cité ses sagesses et ses enseignements dans la sourate Al-Imran, du verset 121 au verset 179. Tous font référence à cette bataille. La première grande leçon de cette bataille, c'était de montrer aux croyants les conséquences de la désobéissance, les conséquences de la division et du conflit. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Sourate 3, verset 152. Dans le sens des versets. Et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous quand, par sa permission, vous les tuiez sans relâche, jusqu'au moment où vous avez fléchi, où vous vous êtes disputé à propos de l'ordre donné et vous avez désobéi après qu'il vous eut montré la victoire que vous aimiez. Il en était parmi vous qui désirez la vie d'ici-bas et il en était parmi vous qui désirez l'au-delà. Puis il vous a fait reculer devant eux afin de vous éprouver. Et certes, il vous a pardonné, et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. Ayant goûté aux effets de leur désobéissance, de leur dissension et de leur défaite, ils se montrèrent dès lors plus vigilants et plus soucieux d'éviter les causes qui conduisent à la défaite. Donc les compagnons ont tiré un enseignement important de cette bataille, à savoir que la désobéissance est une source de défaite. Les dissensions sont une source de défaite. Et cela, bien sûr, ne s'est jamais reproduit du vivant du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième leçon, selon la sagesse divine, les croyants connaissaient tour à tour victoire et défaite. S'ils remportaient toujours la victoire, le but de l'épreuve ne serait pas atteint. Allah distingue ainsi les sincères de ceux qui ne le sont pas. La sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala implique que les croyants goûtent à la victoire et à la défaite, afin que l'on sache qui suit le messager dans la victoire et dans la défaite, et qui le suit seulement dans la victoire. Mais la victoire finale sera toujours en faveur des croyants. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Voici donc des moments que nous faisons alterner. Un jour pour les croyants, un jour contre les croyants. C'est le sens de la parole de Abi Sofiane, si vous vous rappelez, lorsqu'il avait dit « Al-Harbu Sijel ». Al-Harbu Sijelun. La guerre est ainsi. Un jour pour nous, un jour contre vous. Un jour pour vous, un jour contre nous. Et donc cela est une éducation importante dans le cœur des croyants, afin qu'ils ne pensent pas qu'ils auront la victoire à tout moment, mais ils n'auront la victoire que s'ils font les causes pour que cette victoire se réalise par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, la bataille d'Uhud distingua le croyant sincère du faux croyant, de l'hypocrite. Et notamment par le fait que beaucoup d'hypocrites avaient manifesté un islam après la victoire éclatante de Badr. Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ses serviteurs dans l'aisance, mais aussi dans l'adversité. S'ils persistent dans l'obéissance dans les deux cas, ils sont véritablement ses serviteurs. Et sachez que les serviteurs ne s'améliorent que par l'alternance entre prospérité et épreuve. Allah dit tabaraka wa ta'ala, مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. Sourate numéro 3, verset 179. Dans le sens des versets, Allah n'est point tel qu'il laisse les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'il distingue le mauvais du bon. Et Allah n'est point tel qu'il vous dévoile l'inconnaissable. Mais Allah choisit parmi ses messagers qui il veut. Croyez donc en Allah et en ses messagers. Et si vous avez la foi et la piété, vous aurez alors une récompense énorme. Quatrièmement, Allah a réservé à ses serviteurs croyants des rangs élevés au paradis, qu'ils ne sauraient atteindre par leurs seules actions. Il leur destine ainsi des causes telles que les épreuves qui les conduisent à ces hautes stations, de même qu'il leur accorde la grâce d'accomplir des œuvres vertueuses. L'épreuve est un moyen par lequel Allah tabaraka wa ta'ala élève les croyants, et Allah les fera atteindre s'ils patientent et s'ils escomptent la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala des plus hauts degrés. Cinquièmement, l'aisance permanente et la victoire constante peuvent rendre l'âme négligente, voire l'empêcher de cheminer sérieusement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc l'épreuve vient la purifier. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut faire miséricorde à une personne et lorsqu'il veut l'honorer, il l'éprouve. Sixièmement, le martyr est l'un des plus hauts degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on ne l'atteint que par les causes qui y mènent. Septièmement, les épreuves purifient les croyants, effacent leurs péchés et leur donnent l'occasion d'obtenir le martyr. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Sourate numéro 3, les versets 139 à 141. Ne vous laissez pas battre, ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. Si une blessure vous atteint, pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Ainsi faisons-nous alterner les jours bons et mauvais parmi les gens, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru et qu'il choisisse parmi vous des martyrs, et Allah n'aime pas les injustes. Et afin qu'Allah purifie ceux qui ont cru et anéantisse les mécréants. Huitièmement, les prophètes eux-mêmes subissent blessures et souffrances, afin d'élever leur rang et leur récompense. Devant cela, les fidèles prenaient exemple sur eux dans la patience. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes en la personne du messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Et le prophète a été à la hauteur durant cette bataille. Sallallahu alayhi wa sallam. Neuvièmement, la participation du prophète sallallahu alayhi wa sallam au combat, comme n'importe lequel de ses compagnons, montre qu'il ne se distinguait pas d'eux et qu'il supportait le tort dans le sentier d'Allah, comme cela montre son courage et sa bravoure. Sallallahu alayhi wa sallam. Abu Ya'la rapporte avec une chaîne de transmission qui est bonne, d'après Ali ibn Abi Talib, qui a dit: lorsque les gens se sont écartés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le jour de Uhud, Ali ibn Abi Talib a dit: je regardais parmi les tués, mais je ne vis pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parmi eux. Je me dis alors, par Allah, il n'est pas à même de fuir les combats, mais je pense plutôt qu'Allah est en colère contre nous à cause de ce que nous avons fait, et qu'il a élevé son prophète sallallahu alayhi wa sallam vers lui. Imaginez-vous, Ali ibn Abi Talib voit bon nombre de compagnons fuir durant cette bataille, et d'autres tués. Sa première préoccupation était de s'assurer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant. Et donc il a regardé parmi les morts, mais il n'a pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il s'est dit, il est impossible que le prophète ait fui au combat. Donc, la seule alternative qui reste, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élevé vers Allah. Allah l'a élevé vers lui. Donc il dit, radiallahu anhu, il ne me restait donc rien d'autre que de combattre jusqu'à être tué. Je brisais le fourreau de mon épée, puis je me lançais contre les ennemis. Me voyant arriver, ils me laissèrent passer, et voilà que je vis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au milieu d'eux en train de combattre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était non seulement un exemple dans la patience, mais aussi dans le courage, dans la détermination, dans la résolution. Il montre l'exemple, même au milieu des ennemis sur le champ de bataille, sallallahu alayhi wa sallam. En conclusion de tout ça, derrière chaque épreuve se cache une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et derrière chaque blessure, une élévation. La défaite est avant tout une éducation. La douleur n'est pas une perte, mais c'est une purification. Allah façonne les cœurs par les événements, purifie les âmes par les difficultés et élève ses serviteurs sincères parce qu'il supporte avec patience. Celui qui médite sur la bataille de Uhud comprend que les chemins vers les plus hautes demeures du paradis sont souvent pavés d'épreuves, mais qu'ils mènent toujours à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il comprendra aussi que les désobéissances, même partielles, peuvent entraîner des conséquences graves pour toute la communauté. La victoire ne dépend pas seulement du nombre ou de la stratégie, mais elle dépend surtout de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et celle de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Une décision individuelle, motivée par un intérêt immédiat, a provoqué un renversement stratégique. Et cela montre que la réussite collective exige patience, constance, discipline et respect des consignes. La désobéissance, même minime, peut priver d'un grand bien. Mais l'épreuve qui en résulte, lorsqu'elle est comprise et assumée, devient une cause de réforme, de purification et d'élévation. Outre ces désobéissances, les compagnons restaient les meilleurs de cette communauté. Leur erreur ne diminue pas leur mérite, mais montre leur humanité. Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonna et fit de cet événement une source d'élévation. La constance dans l'obéissance est la clé de la stabilité et du succès durable. Nas'Allah tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbuhu wa yardah, kama nas'aluhu subhanahu wa ta'ala al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.